Bonjour à tous, merci d'être venus. Merci à Bertrand Binoche d'être venu ici pour nous parler de son ouvrage « Écraser l'infâme » sorti aux éditions La Fabrique. Alors moi, tout d'abord, première question, c'est pourquoi il vous a paru important aujourd'hui de parler des Lumières et notamment de la philosophie des Lumières?
Il y avait trois raisons, à vrai dire. L'une sur laquelle je passerai vite par pudeur, mais que je mentionne quand même, qui est strictement biographique. Comme ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les Lumières, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une petite, d'essayer en tout cas de faire une petite synthèse claire. C'est-à-dire que je voudrais rappeler, même si c'est évident, je le rappelle quand même, qu'en général, pour arriver à dire les choses rapidement et clairement, il faut avoir passé beaucoup de temps à se perdre dans des labyrinthes, dans des questions érudites qui n'intéressent personne. Et donc, il faut avoir écrit des gros livres, très ennuyeux, avec beaucoup de notes en bas de page, pour pouvoir en écrire un petit, où il y ait beaucoup moins de notes, et qui puisse être moins rébarbatif, dirons-nous. Alors, la seconde raison, c'est une raison qui est bibliographique. Je n'ai pas eu le temps de faire le test à la librairie Mola, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans une librairie, une grande librairie de province, ça n'était pas à Bordeaux. Et si vous allez dans une grande librairie au rayon philosophie et que vous cherchez des livres concernant la philosophie des Lumières, eh bien, vous n'en trouverez pour ainsi dire pas. Le seul ouvrage sérieux que vous trouverez, je parle d'ouvrage de synthèse, hein, je ne parle pas d'ouvrage sur Voltaire ou sur Diderot. Je ne parle pas d'ouvrage littéraire, je parle d'ouvrage de philosophe sur la philosophie des Lumières. Le seul ouvrage que vous trouverez, qui est remarquable, est un ouvrage d'Ernst Cassirer, le grand philosophe allemand, qui date de 1932. Ça fait quand même longtemps. Il y a donc une sorte de curieuse ellipse ou de lacune bibliographique. Si un étudiant vient me voir à la fin d'un cours en me disant « Monsieur, est-ce que vous pouvez me conseiller un livre lisible en français, c'est-à-dire écrit en français ou traduit en français sur la philosophie des Lumières, je ne peux lui indiquer que l'ouvrage de Cassirer qui date de 1932, qui est un ouvrage remarquable, mais qui, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, se trouve hypothéqué, bien sûr, par un certain nombre d'attendus qui avaient tout lieu de ne pas me satisfaire, et non seulement moi, mais beaucoup de lecteurs contemporains. Donc il y a un vrai problème bibliographique. Et bien sûr, ce problème biographique pose une question qui est importante. La question, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, alors que par ailleurs, en France, on aime beaucoup se revendiquer des Lumières? Ce n'est pas du tout une période honteuse. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne fais pas de polémique, si vous avez vu que le chef de la droite républicaine pour les élections européennes se réclame à la fois de l'héritage judéo-chrétien, de l'héritage gréco-romain et des Lumières. Et d'une certaine façon, beaucoup se réclament des Lumières. Mais on en parle beaucoup, on s'en réclame beaucoup, et en tout cas, en ce qui concerne les études philosophiques, on ne les étudie pas. J'ai fait un petit test, cette fois-ci, non pas dans une librairie, mais sur les concours de philosophie, l'agrégation de philosophie, et j'ai regardé si des auteurs des Lumières étaient sortis depuis 1960 à l'écrit. C'est un bon test, ça, parce que ça permet de voir les auteurs qui sont reconnus ou pas. Et en l'occurrence, c'est tout à fait concluant, puisque le seul auteur des Lumières, je n'ose pas dire français, puisqu'il est suisse, mais enfin écrivant en français, qui est sorti à plusieurs reprises, c'est Rousseau. C'est-à-dire un philosophe des Lumières qui écrit contre les Lumières, pour une grande part. Mais Voltaire ou Diderot, qui au XVIIIe siècle étaient considérés comme les philosophes par excellence. Voltaire était considéré comme le prince des philosophes. Ses textes faisaient trembler les princes, au sens propre du terme. Eh bien, Voltaire ou Diderot n'ont jamais eu l'honneur dont bénéficient de manière régulière Descartes ou Kant, ou qui vous voulez. Donc, ça pose forcément un problème qui est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas ou si peu considérés comme des philosophes? Et là, il y a un certain nombre de raisons que je peux évoquer rapidement. Il y a une raison disciplinaire qui est qu'après la Révolution française, l'université a scindé clairement les études littéraires et les études philosophiques. Et alors, on ne sait pas bien quoi faire avec des gens qui écrivent des textes qui sont indissociablement philosophiques et littéraires. Il suffit que vous pensiez au conte de Voltaire. Donc, on a effectué une sorte de partage, et de ce partage résulte que on a abandonné au département de littérature, pour lequel j'ai plus grande sympathie, on leur a abandonné l'étude de la philosophie des Lumières, qui se transforme en littérature des Lumières. Et dans les départements de philosophie, on a conservé peu de choses. Rousseau, mais une partie de Rousseau, puisque l'œuvre autobiographique est considérée comme non philosophique, du fait qu'on a tracé cette démarcation extrêmement brutale et parfaitement anachronique, puisque les hommes du XVIIIe siècle auraient bondi sur leur chaise si on leur avait dit que les contes philosophiques de Voltaire n'étaient pas philosophiques. Donc on a gardé en philosophie quelques œuvres de Rousseau, et puis on admet certes qu'il y a quand même quelques ouvrages de Diderot, de Montesquieu qui méritent la lecture, mais enfin, guère plus que ça. Donc le partage philosophie-littérature rend illisible la philosophie des Lumières. Ça, c'est quelque chose, on ne peut plus l'appréhender, parce qu'on en considère qu'aujourd'hui, on considère qu'une grande philosophie, c'est une philosophie qui se présente sous une forme systématique et abstraite. Et par conséquent, comme les philosophes des Lumières ne sont pour la plupart pas susceptibles d'être présentés sous cette forme, ils ne sont pas des philosophes. Et puis, il y a bien sûr des raisons qui sont beaucoup plus politiques, idéologiques, devrais-je dire, et qui tiennent à l'après-révolution française. Il y a eu un moment passionnant en histoire de France, dans l'histoire idéologique, politique, philosophique de France. C'est les 10-20 premières années du 19e siècle, où on veut finir la Révolution. Et on veut finir la Révolution française. Et finir la Révolution française veut dire, dans l'esprit de la plupart, qu'il faut en finir avec les causes de la Révolution française. Lesquelles causes sont souvent, très souvent identifiées à la philosophie des Lumières. Ce qui se résume dans le fameux « c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau ». Si c'est la faute à Voltaire et que c'est la faute à Rousseau, eh bien, il faut cesser de lire Voltaire, il faut cesser de lire Rousseau pour pouvoir mettre un point final à la Révolution française, ce qui a été une grande hantise du XIXe siècle. Et à ce moment-là, on a éjecté la philosophie des Lumières. C'est devenu un héritage encombrant. Tout le problème a alors été qu'est-ce qu'on peut bien mettre à la place ? Où est-ce qu'on peut trouver un autre héritage ou quelque chose d'autre qui permet de faire de la philosophie en France, mais de faire une philosophie qui ne doive rien à cet héritage pré-révolutionnaire. C'est pas un hasard si en 1810, la grande Madame de Staël publie un ouvrage qui s'appelle « De l'Allemagne » et où elle introduit l'idée qu'il va avoir une fortune extraordinaire, l'idée qu'au fond, la philosophie se trouve sous sa forme la plus accomplie, non pas en France, non pas en Grande-Bretagne, mais en Allemagne. En Allemagne, qui à l'époque était une terra incognita en matière de philosophie. Donc, il y a des raisons disciplinaires, et puis il y a des raisons idéologiques. Je pourrais ajouter une troisième raison, plus purement philosophique, qui est la figure de Kant. Kant a écrasé les Lumières et on a vite intériorisé l'idée qu'au fond, le philosophe des Lumières, c'était Kant. Donc, si on avait lu Kant, on savait ce que c'était que les Lumières et ça dispensait de lire les Voltaire, les Diderot, les Condillac, qui n'en étaient que des prémices confuses, un peu balbutiantes. Voilà les raisons, me semble-t-il, pour lesquelles en France, on aime beaucoup à se réclamer des Lumières, et tout en s'en réclamant, on se sent, du côté des philosophes en tout cas, dispensé de les lire. Et puis, il y a un troisième motif à mon livre, qui est un motif plus conjoncturel, plus urgent, je dirais plus politique, Mais c'est amusant parce que je m'en suis rendu compte après avoir écrit le livre. Donc, quand je dis c'est un motif inconscient ou c'est un motif a posteriori. Ce motif, c'est le fait que les Lumières aujourd'hui sont devenues l'objet d'une sorte de vindicte bruyante de la part de tous ceux qui se trouvent sur l'échiquier idéologique à la droite de la droite. Et là, vous trouvez des gens très différents, dont certains sont très connus, et dont le propos est les Lumières, c'est fini, le progrès, c'est fini, la raison, le rationalisme, l'humanisme, tout ça, ce sont de vieilles lunes. Il est temps de passer à autre chose. Il y avait eu, je l'avais apporté avec moi, parce que ça m'amusait beaucoup, ça m'amuse, parce qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Il y avait eu un texte qui était paru dans Le Monde, sur le blog du Monde, qui s'appelait « Mais qui veut éteindre les Lumières ?» et où vous trouviez aussi bien Michel Houellebecq que l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, Marion Maréchal, que vous connaissez tous, le patron des éditions du CERF, Jean-François Colosimo. Je pourrais enfin citer Jacques de Guillebon, fondateur de l'Incorrect magazine de la nouvelle extrême droite. Et tous ces gens-là disent quoi? Eh bien, la philosophie des Lumières, on peut faire une croix. Deux points d'essai. Ça, c'est Houellebecq. Marion Maréchal, l'émancipation de l'individu pensé par les Lumières, autrement dit la capacité à transcender sa condition sociale ou familiale, est devenue une sorte d'intégrisme. Donc, les Lumières sont intégristes, vous avez bien entendu. Monsieur Patrick Buisson déclare « Les mythes du progrès et de l'égalité portés par les Lumières sont aujourd'hui ruinés. » Bon, j'en passe, je pourrais continuer encore quelques minutes, mais je ne pense pas que ça vous passionne. C'est quand même instructif. Et ce qui est instructif, si jamais vous allez voir cette petite enquête, c'est qu'on donne la parole aux partisans des Lumières, enfin d'éminents collègues qui défendent les Lumières. Et on est en même temps un peu effrayé par la pauvreté de ce qu'ils avancent pour défendre les Lumières. En gros, ça consiste à dire non, non, tout de même, les Lumières, c'est très important parce que c'est la raison, c'est l'universel, c'est l'émancipation. Deleuze avait pour ces mots-là une expression que j'aimais bien, il disait c'est des concepts gros comme des dents creuses. Et le fait est qu'on peut répéter en y mettant beaucoup de conviction dans la voix, émancipation, progrès, universel, mais ça ne donne pas pour autant beaucoup de poids philosophique à ces mots. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai éprouvé le besoin de prendre le parti des Lumières, non pas pour dire c'est l'universel, mais pour essayer d'y trouver une certaine idée dans laquelle je me reconnais à tort ou à raison de ce que c'est, non pas de ce que c'est que la philosophie, mais je dirais de ce que c'est que philosopher. Le sous-titre de l'ouvrage, alors le titre de l'ouvrage, c'est « Écraser l'infâme », c'est la fameuse formule de Voltaire. Et le sous-titre, c'est « Philosopher à l'âge des Lumières », et j'ai tenu à mettre le verbe plutôt que le substantif, « La philosophie des Lumières ». Pourquoi ? Le titre et le sous-titre se complètent. Parce que, à mes yeux, il n'y a pas de philosophie des Lumières, au sens où il existerait une doctrine que je pourrais vous résumer à grands traits. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que si vous posez la question sur quoi est-ce que Voltaire, Diderot, Rousseau, Condillac et d'autres moins connus, mais souvent très intéressants, sur quoi sont-ils d'accord? La réponse est qu'ils ne sont d'accord sur rien, positivement. Ils sont d'accord sur une chose, une, mais c'est beaucoup. C'est qu'il faut écraser l'infâme. L'infâme, c'est la superstition. La femme, c'est la superstition. En France, la superstition coïncide largement pour ces philosophes avec l'Église catholique. Mais l'accord des philosophes, c'est un accord, et ça c'est très important, je crois, c'est un accord négatif. C'est pourquoi il n'y a pas de philosophie des Lumières, il n'y a pas de doctrine sur laquelle ils pourraient se retrouver. Il y a un ennemi sur lequel ils peuvent se retrouver, sur lequel ils se sont retrouvés. Et cet ennemi, c'est ce que Voltaire appelle l'infâme. De sorte que, de ce point de vue, la philosophie, ce n'est pas une doctrine, c'est une activité. Et moi, je crois beaucoup à cette idée que faire de la philosophie, ça n'est pas enseigner la vérité, c'est essentiellement inquiéter, déstabiliser. Les hommes des Lumières avaient une expression, vous connaissez tous pour ça, mais l'expression est devenue tellement banale qu'elle ne veut plus dire grand-chose. C'est penser par soi-même. Penser par soi-même, c'est devenu un slogan qu'on trouve dans les suppléments des quotidiens. Mais penser par soi-même, ça avait un sens très fort. Ça veut dire avant tout que philosopher, c'est contraindre son interlocuteur à penser par lui-même. Le contraindre à faire usage de sa raison. Le contraindre à faire usage de sa raison, c'est le contraire de lui enseigner, de lui dire ce qui est. C'est au contraire le forcer à se demander ce qu'il en est. Et ce qui est fascinant dans la philosophie des Lumières, c'est l'inventivité des procédés qu'elle a mis en œuvre pour faire en sorte que le lecteur, éventuellement l'auditeur, soit obligé de réfléchir, se trouve contraint de réfléchir. C'est très important, hein, ce que je vous dis. Excusez-moi, je m'excite tout seul. Mais c'est important parce que quand on est enseignant, ce qui est mon cas, c'est le cas de la plupart des philosophes en France, pour des raisons historiques, quand on est enseignant, on se trouve confronté à une attente qui, très souvent, à mon avis, n'est pas une attente philosophique, mais qui est ce que moi j'appelle, et j'espère ne choquer personne en disant cela, et tout à l'heure vous me ferez toutes les objections que vous voulez, et je m'incline tout de suite. Mais je dirais, très souvent, on se trouve en face d'une attente qui est une attente que moi j'appelle religieuse. C'est-à-dire que ce qu'attend souvent l'étudiant, c'est qu'on lui dise la vérité, c'est qu'on lui dise ce qu'il doit penser. Et quand, au lieu de lui dire ce qu'il doit penser, on lui dit même pas ce qu'il ne doit pas penser, on lui dit qu'il y a de fortes chances que ce qu'il pense ne soit pas si sûr que ça, mais on lui dit aussi que ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas y souscrire. Et je dis toujours à mes étudiants, si à la fin du semestre, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est bien. Si vous avez de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec moi, j'aurais bien fait mon travail. Et je pense que ça, c'est les Lumières. Les Lumières, c'est une contrainte à l'intelligence. Et par conséquent, ça ne peut pas être une doctrine. Alors, j'ai répondu très longuement, mais je termine en disant, au fond, je pourrais résumer ça en disant, pour moi, c'est un moment philosophique et c'est un modèle d'activité philosophique. C'est un moment parce qu'historiquement, c'est une période à laquelle il faut restituer sa positivité. On considère la plupart du temps qu'au fond, il y a les grands philosophes du XVIIe siècle, Descartes, Leibniz, Spinoza, ça c'est sérieux. Et puis il y a les grands philosophes du XIXe siècle, en faisant commencer le XIXe siècle à la fin du XVIIIe avec Kant. Alors Kant, Hegel ou Auguste Comte, ça ce sont des grands auteurs. Puis entre les deux, il y a des hommes de lettres qui disent des choses qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. Donc mon livre, il est écrit d'abord contre ça. Il y a quelque chose qu'on appelle les Lumières, qu'on appelle maintenant les Lumières, et qui implique une idée tout à fait spécifique de philosophie. On peut considérer qu'elle n'est pas plus intéressante ou plus féconde que celle qui existait avant ou celle qui existait après, mais elle existe. Ce n'est pas simplement une transition. Et puis, la seconde raison, par conséquent, c'est que pour moi, c'est que la philosophie, c'est une pratique, et c'est une pratique c'est une pratique de destruction, écraser l'infâme, dans laquelle personnellement je me reconnais, étant bien entendu que là encore, j'admets bien volontiers qu'il y ait de toute autre façon de faire de la philosophie. C'est très bien, mais ce ne sont pas la mienne.
Alors moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, ce que vous dites énormément, ce dont vous parlez énormément dans votre ouvrage, c'est les préjugés. C'est cette question-là. Ah oui. Et moi, j'ai cette question-là. Pourquoi, si vous avez la réponse, hein, évidemment. Pourquoi, alors, cette époque-là était remplie autant de préjugés. Pourquoi c'était le nerf de la guerre pour les philosophes de lumière de s'attaquer à ces préjugés-là, préjugés qui prenaient après ce que vous dites dans le livre, la forme de l'homme, superstition, cela. Donc pourquoi à ce point cette notion de préjugé prédomine?
Oui, je me permets de ne pas souscrire tout à fait à la question telle que vous la formulez, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait eu plus de préjugés au XVIIIe siècle qu'au XVIIe siècle. Ce qui est nouveau, c'est que les philosophes considèrent que leur fonction, c'est de détruire les préjugés. Si vous lisez un tout petit peu les grands philosophes du XVIIe siècle, qu'ils s'appellent Descartes, qu'ils s'appellent Leibniz, qu'ils s'appellent Malebranche, il y a dans cette salle un grand spécialiste de Hobbes, alors il me dira tout à l'heure si ça vaut pour Hobbes, mais je crois. Tous ces gens-là, quel est leur problème? Le mot préjugé existe, ils peuvent l'utiliser, on le trouve sous la plume de Descartes. Mais leur problème n'est pas le préjugé. Leur problème a un nom, c'est l'erreur. Le problème du philosophe au XVIIe siècle, le problème majeur, c'est même pas de combattre l'erreur, c'est d'éviter l'erreur. Un bon philosophe, c'est quelqu'un qui ne va pas se tromper. Et comment est-ce qu'on fait pour pas se tromper? Quel est l'instrument qu'il faut mettre au point, l'outil dont on a besoin pour éviter de se tromper? Ça a un nom, ça s'appelle la méthode. Un des ouvrages les plus connus du XVIIe siècle, c'est le discours de la méthode. Eh bien, ce qui change au XVIIIe siècle, et c'est pour ça qu'il y a une spécificité, ce que j'appelle une positivité de la philosophie au XVIIIe siècle, c'est que les philosophes, bien entendu qu'ils vont parler d'erreur, bien entendu qu'on pourra trouver sous leur plume le terme de méthode, mais les philosophes des Lumières vont se donner une nouvelle extériorité, un nouveau dehors, si vous voulez. Et le dehors ne s'appelle plus erreur, il s'appelle préjugé. Un préjugé, ça ressemble à une erreur, mais ce n'est pas la même chose qu'une erreur. Ce n'est pas la même chose qu'une erreur parce que, pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'un préjugé peut tout à fait être vrai. Un préjugé, c'est une proposition dont vous êtes convaincu sans y avoir jamais réfléchi. Proposition que vos parents, par exemple, ou vos professeurs vous ont apprise et que vous avez parfaitement intériorisée sans vous être jamais demandé très bien pourquoi. C'est ça un préjugé. Ça peut tout à fait être vrai. C'est pas, vous êtes convaincu que Copernic avait raison. Il n'est pas certain que vous puissiez me démontrer pourquoi. Donc le préjugé peut être vrai. Ça n'est pas la vérité ou la fausseté qui fait le préjugé. C'est la passivité. Le propre du préjugé, c'est que on le reçoit, on le subit. Et par conséquent, le drame pour le philosophe du XVIIIe siècle, ça n'est pas de se tromper, ça n'est pas d'être dans le faux, c'est d'être passif. D'être passif, c'est-à-dire d'avoir accepté de répéter ce que diverses formes d'autorité nous ont enseigné et que, je dirais, des sortes de lieux communs auxquels nous sommes résignés et que nous répétons docilement. Le drame du philosophe au XVIIIe siècle, c'est la docilité, c'est la servitude. Ça a un nom aussi auquel j'ai consacré un chapitre entier, c'est l'esclavage. L'esclavage, au XVIIIe siècle, a toutes sortes de sens, mais ça a d'abord le sens d'être esclave de ses préjugés. On est esclave de ses préjugés. On n'est pas esclave de ses erreurs. Une erreur, on n'en est pas esclave. On se trompe. On se trompe si on n'a pas employé la méthode qu'il fallait, si on n'avait pas de méthode du tout. Alors, on fait des erreurs. Mais vous voyez encore la différence dans le fait que l'erreur, précisément, si vous avez la méthode, vous pouvez l'éviter. Le préjugé, vous ne pouvez pas l'éviter. Le préjugé, il est toujours déjà là. Vous l'avez absorbé avec le lait de votre mère. Par conséquent, le problème n'est pas d'éviter le préjugé. Le problème, c'est de s'en débarrasser. C'est pour ça que la philosophie du XVIIIe siècle est beaucoup plus agressive que la philosophie du XVIIIe siècle. Elle ne s'embarrasse pas de toutes sortes de précautions, même si je n'entends pas du tout minimiser, pas choquer les XVIIe-istes qui pourraient être ici, minimiser l'audace ou le courage des grands hommes du XVIIe siècle. Mais les Lumières françaises, il faut dire françaises, parce qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne, là où la réforme a triomphé de manière diverse, c'est moins vrai. Mais en France, en terre catholique française, la philosophie se fait très agressive. Et elle se fait très agressive parce que l'ennemi, c'est le préjugé. Il est déjà là. Il est dans les esprits. Et toute la question devient de savoir comment s'en débarrasser. le combat contre le préjugé, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la forme majeure du préjugé ? C'est la superstition. C'est l'infâme. On y revient, excusez-moi, mais ces gens-là y reviennent toujours. C'est leur obsession. Donc, le problème majeur, c'est de détruire les préjugés, de les détruire. Ils sont déjà là. Et essentiellement, de détruire ces préjugés qui sont de l'ordre de la superstition, dont on considère qu'ils sont les plus dramatiques, les plus catastrophiques. Ce sont eux qui sont responsables du reste. Vous avez des textes de D'Holbach, le baron D'Holbach, grand matérialiste, qui dit, au fond, ce sont les préjugés religieux qui sont à la source de tous les autres préjugés. Même les préjugés politiques qui justifient la tyrannie sont tributaires des préjugés religieux. Donc le combat contre les préjugés, ça n'est pas la même chose que le combat contre l'erreur, et c'est un combat contre la superstition. Une question intéressante à laquelle j'ai cru répondre dans mon livre, mais je pense maintenant que j'y ai mal répondu, mais je peux au moins poser la question, c'est qu'est-ce que ça devient après la Révolution française ? Pour les philosophes du XIXe siècle, quel est le nouveau dehors ? En tout cas, au XVIIIe siècle, c'est le préjugé, et donc la question c'est, il faut se battre contre les préjugés. Les préjugés, c'est essentiellement la superstition. Mais toute la question, bien sûr, ensuite, c'est de savoir comment on fait pour se battre contre. Que veut dire contre dans contre les préjugés ? Et là, vous avez un certain nombre de stratégies, d'options qui cohabitent, sans du tout faire système, qui cohabitent de manière hétérogène, pourrait-on dire. Mais encore une fois, l'accord, c'est qu'il faut employer tous les moyens pacifiques, tous les moyens verbaux, théoriques, pour se débarrasser de ces préjugés qui ne sont pas de simples erreurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
J'ai très bien répondu à la question. Moi, c'est une autre question que je me pose, c'est, vous allez nous expliquer, c'est cette question de providence. Comment elle vient s'articuler avec cette notion de préjugé et qui découle aussi de cette superstition. Voilà.
C'est assez simple. Ça vient du fait que si on se demande, après tout, sous quelle forme majeure se présente la superstition pour les hommes des Lumières, la superstition, c'est d'abord la superstition chrétienne et tout particulièrement catholique. Et le grand mot, c'est la providence. Qu'est-ce que ça veut dire, la providence ? La providence, ça veut dire la providence, c'est Dieu en tant qu'il gouverne le monde. Donc, penser le monde, pour les hommes des Lumières, penser la réalité, va vouloir dire la pensée sans Dieu. Il faut penser le monde en se passant de Dieu. C'est ça, le problème. Alors, ça a toute une série de conséquences dans le domaine, à proprement parler, de ce qu'on appelait à l'époque la philosophie naturelle, nous, on dirait les sciences de la nature. Et puis, moi, j'ai privilégié arbitrairement les conséquences de ce refus de la providence dans le domaine de ce qu'on appelait à l'époque la philosophie morale. Ce qu'on appelait à l'époque la philosophie morale, c'est ce qui n'est pas la nature, c'est-à-dire en fait, on disait aussi les affaires humaines. Et je me suis tout particulièrement intéressé, parce que ça fait 30 ans que ça m'intéresse, c'est le seul motif que je puisse avancer, je me suis tout particulièrement intéressé à la question de la providence en tant qu'elle gouverne, ou plutôt qu'elle ne gouverne pas l'histoire. Parce qu'il y a une énorme réflexion à l'époque sur comment penser l'histoire des hommes, si ça n'est pas Dieu qui la détermine. Vous savez que l'infâme, ici, il a un nom, on pourrait dire, hein, c'est Bossuet. Parce qu'il y a le grand texte de Bossuet, 1681, j'espère ne pas dire de bêtises, s'il y a une bêtise, elle est en train d'être immortalisée avec ce micro, le discours sur l'histoire universelle. Le discours sur l'histoire universelle nous raconte comment ce qui est arrivé aux hommes depuis la création a été voulu par Dieu. eh bien, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, puisque là encore, ils ne sont pas d'accord positivement entre eux, les hommes du XVIIIe siècle ont développé des trésors d'ingéniosité pour appréhender l'histoire, comprendre l'histoire des hommes, en expulsant Dieu, en expulsant la Providence. C'est-à-dire qu'ils l'ont Bossuet est pour eux le nom de l'ennemi, enfin, l'ennemi principal. Et là, il y a d'innombrables solutions, mais je peux en parler si vous voulez, mais je reviens à votre question. Le préjugé se présente avant tout sous la forme de la superstition, et la superstition, elle se présente avant tout sous la forme de la Providence. C'est-à-dire que la Providence, c'est la superstition en tant qu'autorité, n'est-ce pas ? Dieu a voulu, veut que les choses soient ainsi. Et par conséquent, philosopher, c'est philosopher contre la Providence. Alors, je dis ça de manière très brutale, et vous pouvez trouver chez Voltaire des textes où il parle positivement de la Providence. Et il faut bien faire attention à ce qu'il met sous le mot. Et en réalité, quand Voltaire parle positivement de la Providence, ce qu'il appelle la Providence, c'est ce que on appelle aussi à l'époque déjà, et ce que nous appelons les lois de la nature. Mais ce que Voltaire appelle la providence, c'est une providence anonyme, c'est-à-dire que c'est une providence sans Dieu. Donc une providence sans Dieu, ça n'a pas grand-chose à voir avec la providence au sens propre, au sens religieux du terme.
D'accord, très bien. Alors,
Vous avez un petit carnet.
Oui, j'ai un petit carnet avec mes petites questions. Oui. Alors, bon, même si vous avez déjà répondu pas mal à cette question, comment combattons justement ces préjugés, comment, bon, vous avez dit...
Grande question.
Voilà, c'est ça, qui amène justement à votre dernier chapitre, qui amène à l'esclavage en fait.
Ah, je croyais que vous reveniez au premier.
Non, mais c'est bon. je fais un peu le lien entre tous. Comment combattons ?
C'est assez logique, puisque vous m'avez posé une question sur le premier chapitre, une sur le second, une sur le troisième. Voilà. Il est assez logique que vous en arriviez au quatrième.
Exactement.
Et je rassure les aimables auditeurs, le quatrième chapitre, c'est le dernier. Donc, ne soyez pas trop inquiets. Ben, l'esclavage, j'ai répondu pour une part à votre question, mais je vais bien sûr y revenir, rassurez-vous. Le rapport entre l'esclavage et le préjugé est un rapport double, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'idée qu'on est esclave de ses préjugés. Le premier esclavage, la forme la plus dramatique d'esclavage pour les hommes, pour les philosophes de cette époque, vous pouvez trouver ça idéaliste, vous pouvez trouver ça odieux si on songe à l'esclavage dans les Antilles, mais il reste que pour eux, l'esclavage premier, celui qui est la source de tous les autres esclavages, c'est l'esclavage des préjugés. Il n'y aurait pas d'esclavage aux Antilles si les hommes n'étaient pas d'abord esclaves de leurs préjugés. Donc l'esclavage, c'est d'abord l'esclavage des préjugés. Les hommes sont esclaves, serviles, dociles. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils répètent. Ils se soumettent. Mais on dit encore, et ce n'est pas du tout contradictoire, que c'est parce qu'on est esclave de ses préjugés qu'on est esclave de ses tyrans. C'est-à-dire que l'esclavage des préjugés conduit à l'esclavage politique. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, une question qui m'a intrigué, c'est que je me suis dit, après, peut-être j'exagère, peut-être que c'est déjà vrai avant, au XVIIe siècle, voire au XVIe siècle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, esclavage est un terme, en réalité, qui apparaît à chaque page. J'exagère, bien sûr, mais pas beaucoup. Vous prenez un ouvrage de Montesquieu, un ouvrage de Voltaire, et vous n'aurez pas besoin de feuilleter longtemps pour trouver le terme d'esclavage. Et par conséquent, vous êtes obligé de vous poser la question, en fait, de quoi est-ce qu'il parle, exactement ? Il parle de l'esclavage des préjugés, je viens de l'évoquer. Mais ensuite, j'ai dit de manière très rapide esclavage politique. Et en fait, quand on regarde de près, c'est une question très intéressante de voir comment ça se spécifie. Parce qu'il y a toute une réflexion sur l'esclavage, mais le même mot désigne des réalités sociales, historiques, très différentes. Il y a d'abord le problème historique, il y a l'esclave antique, il y a le serf médiéval. il y a l'esclave aujourd'hui dans les colonies, aujourd'hui au XVIIIe siècle. Alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il faut faire une différence? Comment est-ce qu'on est passé de l'esclave à Sparte au serf médiéval, et comment est-ce qu'on est passé du serf médiéval à l'esclave en Jamaïque? C'est l'un des axes. Donc vous avez un premier foyer d'équivocité, c'est-à-dire que le mot désigne des réalités dont il n'est pas du tout évident qu'elles coïncident. Ensuite, vous avez une seconde ligne, parce que vous avez le problème de l'esclavage civil, l'esclave aux Antilles, par exemple, et puis ce qu'on appelle à l'époque, ça, chez Montesquieu, c'est très net, l'esclavage domestique, le problème de l'esclavage des femmes. Le problème de l'esclavage des femmes, tel qu'il est posé, tel qu'il est fantasmé pour une part, dans la représentation qu'on se fait de l'Orient. Il suffit que vous ayez quelques souvenirs scolaires des lettres persanes pour voir de quoi je parle. Les femmes en Orient sont esclaves. Alors, elles sont esclaves, mais quand on dit qu'elles sont esclaves, est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce qu'on dit la même chose que quand on dit que les nègres, puisque c'est le mot qu'on utilise à l'époque, les nègres sont esclaves en Jamaïque? C'est pas évident. Et puis, troisièmement, il y a le fait que on dit aussi, on parle aussi de ce qu'on appelle l'esclavage politique. L'esclavage politique, ça veut dire, c'est ce qu'on désigne pour désigner les sujets d'un despote, les sujets d'un tyran. Si vous lisez les lettres persanes, il y a les femmes qui sont esclaves d'Uzbek et Rika, parce qu'elles sont enfermées au sérail, mais Uzbek et Rika sont eux-mêmes esclaves du sultan. Esclavage politique. Les fameuses déclarations qui ouvrent le contrat social de Rousseau, les hommes sont nés libres et partout ils sont dans les fers, et partout ils sont esclaves. Donc l'esclavage politique, l'esclavage domestique, l'esclavage civil sont des formes d'esclavage, mais il paraît assez difficile de les faire coïncider. Manifestement, le terme a une signification très, très lâche, n'est-ce pas ? À partir de quoi d'ailleurs va se poser un problème qui est au fond, si nous en France nous sommes esclaves puisque nous vivons dans une monarchie absolue, est-ce que nous sommes très différents des Noirs qui sont esclaves aux Antilles? On trouve des textes d'époque qui se posent la question, est-ce que nous sommes très différents? Certains disent bah non, d'autres disent bah quand même, faut pas exagérer, il vaut mieux être boulanger à Paris que nègre aux Antilles. Il y a donc toute une... Et on voit bien que tout le problème consiste à savoir quel contenu précis on donne au terme. Mais en réalité, il n'a pas de contenu précis. Il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir parce que il ne peut pas en avoir plus que le terme d'émancipation. C'est un terme qui trouve son efficacité, sa force polémique précisément dans la pluralité de ses significations. Alors là, on est devant un phénomène, moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, c'est le phénomène des, moi, je dis les maîtres mots, c'est-à-dire les termes dont la portée, c'est précisément qu'ils ne sont pas définissables. Ce ne sont pas des concepts, en ce sens-là. Ce sont pas des concepts. Je crois que l'esclavage au XVIIIe siècle n'est pas un concept. Si vous essayez de le définir, vous n'y arrivez pas. De toute évidence, le terme a plusieurs sens. Mais cette pluralité n'est pas, de mon point de vue, cette pluralité n'est pas un défaut. En tout cas, ce qui fait la force du mot, sa force polémique, sa force négative, sa force agressive, c'est précisément la richesse, la prolifération peu contrôlable de ses significations. Il n'y a pas de cinquième chapitre.
Hein. Non, mais voilà, je vais faire le bon élève quand même. Dans la conclusion, vous évoquez en fait ce qu'est la question de ce qu'est un philosophe, ce que doit peut-être être un philosophe. Et du coup, moi, c'est ma question. Qu'est-ce qui fait un philosophe? Vous l'aviez déjà un peu dit au début, mais est-ce que c'est rester dans une forme de structuralisme ou un passage par le conte, par exemple, comme Voltaire a pu le faire, ou ce que vous faisiez le parallèle, il me semble, avec Candide, mais malheureusement, ça m'a échappé. Est-ce qu'il faut avoir cette philosophie vraiment formelle, structurelle, dans le sens avec la méthode, comme vous disiez, ou passer, est-ce qu'on peut dire qu'un philosophe est philosophe s'il passe par le conte, ou même de la littérature, retrouver ces choses-là? Je ne sais pas si je suis clair.
Si, vous êtes très clair. Vous êtes très clair. J'ai le sentiment d'avoir commencé à vous répondre tout à l'heure.
Oui.
Je n'ai fait que commencer, alors oui. Je continue. Ce que j'ai dit tout à l'heure implique ma réponse. C'est que, de mon point de vue, il est absurde de vouloir considérer qu'il n'existe de la philosophie que dans les ouvrages dont nous considérons aujourd'hui que ce sont des ouvrages de philosophie. Je conteste l'idée qu'il y a de la philosophie chez Descartes, chez Spinoza et chez Hegel, et qu'en revanche, il n'y en a pas dans Jacques le Fataliste ou dans Candide. Et je peux aller plus loin, c'est-à-dire que même en franchissant le seuil de la Révolution française, où le partage dont j'ai parlé tout à l'heure s'est fait, je pense qu'il y a... On peut très bien admettre qu'il existe de la philosophie dans La peau de chagrin de Balzac. Et non seulement on peut admettre qu'il y a de la philosophie dans La peau de chagrin de Balzac, mais on peut admettre qu'il y en a plus que dans ce qui fut un des best-sellers philosophiques du 19e siècle, l'ouvrage de Victor Cousin, Du vrai, du beau, du bien, que vous n'avez sans doute pas lu, et à vrai dire, n'ayez aucun regret sur ce point. La philosophie n'existe pas que dans les ouvrages de philosophie, elle peut même exister plus dans des ouvrages qui ne sont pas de philosophie. J'avais un maître qui s'appelait Pierre Macheret et qui distinguait la philosophie et le philosophique. La philosophie, c'est ce qui est labellisé comme tel dans les universités. Le philosophique, sans doute beaucoup plus difficile à définir, mais le philosophique, il y en a chez Claude Bernard quand il s'interroge sur la fonction glycogénique du foie, et il y en a chez Balzac quand il écrit La peau de chagrin. Je pense pour ma part que, bien sûr, il ne faut pas sombrer dans une espèce de grand confusionnisme où il y a de la philosophie n'importe où, où tout est philosophique, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'odieux chez les philosophes de profession, c'est une certaine façon de tracer des démarcations très abrupte, en décrétant que ceci est de la philosophie et donc digne d'intérêt, et que cela n'en est pas. Ça m'a toujours paru très dogmatique. C'est un dogmatisme qui n'est pas un dogmatisme de contenu, c'est pas un dogmatisme doctrinal, c'est un dogmatisme d'institution. On décide que... Mais non, et alors, encore une fois, c'est évident quand vous lisez les auteurs du XVIIIe siècle. Vous voyez bien que si vous dites chez Voltaire, il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de philosophie, parce qu'il y a philosophie dans le titre, et puis il y a des ouvrages qui sont des ouvrages littéraires, parce que ce sont des contes ou des pièces de théâtre, vous ne pouvez pas ne pas voir qu'il y a là une sorte d'absurdité. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas dire que dans Zadig ou dans Candide, il n'y a pas de philosophie. C'est pas tenable comme position. Donc, la philosophie, je pense qu'il y en a en bien des lieux où on peut être incité à penser par soi-même. C'est pour ça que La peau de chagrin peut beaucoup plus faire penser que tel ouvrage de Victor Cousin que je citais, parce que j'étais sûr de choquer personne. Ça m'étonnerait qu'il y ait un cousinien dans la salle. Ça n'existe plus. Il y en a eu énormément au 19e siècle, des cousiniens. Et je professe dans un illustre établissement dont l'adresse est rue Victor Cousin. Donc, si je puis dire, je sais de quoi je parle.
Merci beaucoup. Merci Bertrand.
C'est moi qui vous remercie. C'est moi.
Et merci à vous d'être venu aussi.
Bonne soirée. Bon appétit.